Vous écoutez, on lit pour vous.
Les États-Unis en mal de contre-pouvoir. Un texte de Mathieu Carbas, paru le 21 février 2026 dans Le Devoir. Culte de la personnalité, pression répétée sur les institutions, contestation des décisions du système judiciaire. Sous Donald Trump, l'autoritarisme s'immisce sans détour au sommet de l'État et plonge la démocratie américaine dans une zone de forte turbulence. À 3 ans de la fin du mandat du président, même les observateurs politiques les plus aguerris sont partagés sur la nature et l'ampleur de la dérive en cours. Le Devoir vous propose des regards croisés sur une union mise, chaque jour un peu plus, sous haute tension. La réalité, c'est que le quotidien sous les régimes autoritaires actuels est très familier à la plupart des Américains. On va travailler, on dîne, on rentre chez soi. La vie est plutôt normale, sauf que les élections, et qui ont souvent lieu, ne changent rien. En 2017, le politologue Thomas Pepinski décrivait la fausse idée que se font ses concitoyens de l'autoritarisme dans l'article « Everyday, authoritarianism is maddening and stupid ». La vie quotidienne sous l'autoritarisme est exaspérante et bête. Selon ce professeur de l'Université Cornell, les Américains associent l'autoritarisme aux pires images du XXe siècle. Bruit de bottes, assassinat politique, figures comme Staline ou Hitler. Une vision trompeuse, disait-il, qui les empêche de reconnaître les formes modernes de l'autoritarisme. Et qui préparerait le terrain à une éventuelle acceptation d'une dérive autoritaire au sommet de l'État. 8 ans plus tard, Mark Koplovich, professeur de sciences politiques à l'Université du Wisconsin, Madison, ajoute une nouvelle dimension à la réflexion de Thomas Pepinski. Selon lui, ni les médias ni le système politique américain ne sont en fait conçus pour faire front face à un système qu'il qualifie d'autoritarisme compétitif, à savoir un système politique autoritaire où les élections existent toujours, mais où le pouvoir cherche à enfoncer l'issue. À l'image des régimes en place à Moscou, à Ankara ou à Budapest. Un système politique sans contre-pouvoir. Si les États-Unis sont impuissants face à la dérive ultra-droitière de leur président, avance M. Koplovich, c'est parce que le système politique américain ne dispose tout simplement pas de garde-fous pour l'empêcher. Dans les systèmes parlementaires, vous pouvez renverser le gouvernement en votant une motion de censure. En revanche, dans le système hyper-présidentiel américain, le seul mécanisme est une majorité des 2/3 au Sénat lors d'un procès en destitution. Si le 6 janvier 2021 n'a pas permis qu'on destitue Trump, c'est bien que notre système politique n'est tout simplement pas conçu pour tenir l'exécutif pour responsable, déplore-t-il en entrevue avec Le Devoir. De plus, la faiblesse des institutions, et notamment de la Cour suprême, a donné à Donald Trump des pouvoirs absolus, affirme Mark Koplovich. Le politologue pointe aussi le fait que le président américain peut invoquer l'urgence nationale par décret en vue d'intervenir dans de nombreux domaines, de la lutte contre l'immigration à l'instauration de droits de douane. L'état d'urgence avait été pensé pour qu'en cas de guerre nucléaire, le président puisse agir rapidement. Nous étions partis du principe qu'aucun des deux partis, démocrates et républicains, n'en abuserait, résume-t-il. Autre argument, le fait que la scène politique américaine soit construite autour du bipartisme a permis au mouvement MAGA de cannibaliser la droite américaine et le Sénat. Et ce, alors qu'il est loin de représenter la majorité des Américains, rappelle le professeur de sciences politiques. Si nous avions le système canadien ou le système allemand, le parti de Trump ou tout autre parti d'extrême droite obtiendrait probablement 25 % des voix. Le Parti républicain obtiendrait autour de 25 %. Il y aurait aussi un parti représentant la sensibilité Clinton-Biden, un parti Sanders-Warren, encore plus à gauche, etc. Mais nous n'aurions pas une majorité autoritaire d'extrême droite au pouvoir. L'inaction des démocrates. Un autre argument soulevé par Mark Kopelovich, c'est l'incapacité des démocrates à proposer une opposition politique à la hauteur de la dérive droitière, du régime et de la polarisation maximale de la vie politique. Il cite en premier lieu la responsabilité de Chuck Schumer, qui dirige le groupe démocrate au Sénat depuis 2017. Ce dernier est, selon lui, un leader d'un temps révolu qui voit encore la politique américaine selon le clivage où se font face deux partis démocratiques raisonnables. La façon dont Schumer, qui est au Sénat depuis toujours, conçoit la politique est telle qu'il n'est absolument pas la bonne personne pour mener la lutte dans un parti d'opposition contre un gouvernement autoritaire, résume M. Kopelovich. Selon lui, la génération actuelle de dirigeants démocrates n'a jamais voulu que son rôle principal consiste à lutter contre Trump ou à réparer ses dégâts. D'autres observateurs pointent également la mollesse des réactions dans le camp démocrate, de Bernie Sanders à Barack Obama, lors des événements de Minneapolis. C'est le cas, par exemple, d'Elizabeth N. Saunders, professeure de sciences politiques à l'Université Columbia. Sur les réseaux sociaux, elle a reproché à l'ancien président démocrate sa réaction trop timide au lendemain de la mort d'Alex Pretty. Faites mieux! Appelez votre ami George W. Bush et présentez-vous ensemble à Minneapolis. Ne vous contentez pas d'écrire des déclarations. Faites quelque chose avec votre mégaphone, a-t-elle écrit. Pour expliquer le peu de bruit côté démocrate, M. Kopelovich avance une autre théorie. Les démocrates n'ont rien à faire, car Donald Trump est très impopulaire dans les sondages. Ils n'ont donc qu'à rester à l'écart et le laisser faire. Les élites et les médias responsables. Au-delà du Parti démocrate, Mark Kopelovich regrette que les élites américaines ne tentent pas de mobiliser le plus grand nombre face à la montée de l'autoritarisme. Des démocrates aux recteurs, en passant par les journalistes et les rédacteurs en chef, personne parmi ces élites occupant des postes de direction n'est arrivé là grâce à des qualités de combattant contre l'autoritarisme, relève-t-il. Une idée partagée par les politologues Adam Bonica et Jake Grumbach dans la revue progressiste Boston Review. Alors que la démocratie fait face à une menace existentielle, les experts et les stratèges restent figés dans le passé, écrivent-ils dans un essai intitulé « How not to defeat authoritarianism ». Comment ne pas vaincre l'autoritarisme? Selon eux, il serait temps aussi que les élites démocrates radicalisent leur discours pour lutter efficacement contre la mainmise du mouvement MAGA. Si la modération était un atout pour les candidats dans les dernières décennies, à l'ère Trump, elle n'a plus d'effet notable et constant sur leur score électoral. La modération, en tant que stratégie, a atteint ses limites en 2024. Quant aux médias, ils seraient coupables, aux yeux de nombreux observateurs, de reproduire les mêmes erreurs que lors du premier mandat de Donald Trump. Les médias américains couvrent les deux côtés de la même façon, en partant du principe que les deux côtés sont des partis démocratiques et qu'ils sont fondés sur la vérité, résume Mark Kopilovich. Le résultat, c'est qu'aux États-Unis, depuis 2016, les mensonges font la une des journaux. Comment résister à la montée de l'autoritarisme? L'une des premières choses à faire serait d'arrêter de tenter de convaincre les Américains qu'ils vivent sous un régime fasciste. C'est ce que propose la chroniqueuse du Washington Post, Megan McArdle, qui estime que les mises en garde alarmistes sont peu efficaces, voire contre-productives. Affirmer que Donald Trump est fasciste ou même autoritaire ne suffit pas, écrit-elle. Beaucoup d'Américains constatent que les élections ont toujours lieu, que les tribunaux continuent d'imposer le respect des procédures et que la presse demeure libre. Plutôt que d'alarmer les électeurs, il serait plus efficace de les convaincre que Trump est simplement un mauvais président qui devrait être remplacé par quelqu'un proposant des politiques différentes. Sur le plan politique, les politologues Adam Bonica et Jake Grumbach, dans la revue Boston Review, appellent les démocrates à élargir le champ de bataille. Les mouvements anti-autoritaires ne gagnent pas en édulcorant leur position, écrivent-ils, mais en construisant des coalitions inattendues autour de griefs largement partagés. Ils invitent aussi les démocrates à se doter d'une véritable crédibilité anti-establishment en s'attaquant frontalement aux élites économiques. Milliardaires influençant la Cour suprême, grandes entreprises exploitant les familles, initiés profitant des marchés financiers, etc. Plus fondamentalement, il souligne aussi l'urgence de la réparation de la rupture avec une partie de l'électorat. En 2024, l'écart de participation entre électeurs démocrates et républicains inscrits s'est révélé plus préoccupant que le transfert de certains groupes, comme les jeunes hommes noirs ou les latinos vers Donald Trump. Enfin, le politologue Mark Kopilovich évoque une réponse qui pourrait venir de l'étranger. Et, selon lui, face à Trump, les gestes symboliques comptent davantage que les ripostes complexes. Boycotter des événements majeurs, comme les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de soccer pourrait à la fois le faire reculer et réveiller une partie de l'opinion américaine, estime-t-il. C'était les États-Unis en mal de contre-pouvoir. Un texte de Mathieu Carbas, paru le 21 février 2026 dans Le Devoir.
Le filet social contre l'itinérance se resserre à Cowansville. Un texte de Jérôme Savary, publié le 24 novembre 2025 dans La Voix de l'Est. Un projet d'envergure de lutte contre l'itinérance verra le jour très prochainement à Cowansville. Trois lieux distincts, réunis à une même adresse, ouvriront ces prochaines semaines, pour le premier, et un peu plus tard pour les deux autres. L'immeuble situé au 113 rue Albert à Cowansville répondra aux besoins des personnes en situation d'itinérance. On y retrouvera un centre de jour, un appartement de quatre chambres faisant office d'hébergement temporaire d'urgence, une halte chaleur hivernale. La cellule jeune et famille de Bron-Missisquoi en profitera également pour y déménager ses pénates. La halte chaleur en premier. Dès le 1er décembre, une halte chaleur sera ouverte tous les jours de 19h à 7h dans les locaux de la cellule jeune et famille de Bron-Missisquoi au 504 rue du Sud jusqu'à ce que les travaux au 113 rue Albert soient réalisés. L'endroit permettra aux personnes itinérantes de se réchauffer, bien sûr, mais aussi de manger, de se laver et de recevoir de l'aide, indiquent les coordonnateurs du projet. Les travaux, réalisé par l'entrepreneur de Dunham, Athéna Construction, devrait être terminé d'ici le 31 mars 2026, selon Cédric Champagne, directeur d'entrée chez soi, Bron-Missisquoi, l'organisme co-gestionnaire du projet avec la cellule. Le budget de ce projet est estimé à 1,9 million pour les travaux de construction et la première année de fonctionnement. Il bénéficie principalement du soutien financier d'Ottawa via l'Initiative fédérale de lutte contre l'itinérance hors refuge et dans les campements, soit 915 000 $, précise M. Champagne. Hébergement temporaire d'urgence et centre de jour. Les différentes déclinaisons de ce projet ont pris leur source au comité itinérance de Bron-Missisquoi, mis sur pied en 2022, et dont les premières réalisations concrètes avaient été la création des haltes chaleur à Cowansville et à Farnham lors des grands froids. D'ailleurs, ce projet vient toutefois de mettre fin à la halte chaleur de Farnham. Le Forum itinérance de Bron-Missisquoi, tenu en 2024, avait ensuite permis d'identifier les besoins d'infrastructures pour les personnes itinérantes. L'hébergement temporaire d'urgence, un 6,5 avec quatre chambres, permettra à autant de personnes, guillemets, en situation d'itinérance ou à risque de l'être, fin des guillemets, de se remettre sur pied pour une durée maximale de 3 mois. Un intervenant sera sur place le soir pour soutenir les personnes dans leur démarche, obtenir de l'aide sociale, trouver un logement, trouver un emploi, obtenir des soins, et les aider à naviguer en société. Le centre de jour sera géré par l'équipe de la cellule. Citation, respectera le rythme de chaque personne dans un milieu sécuritaire. Fin de citation, dit Annie Boulanger, directrice de l'organisme. Il fera office de lieu de répit en complémentarité avec la halte chaleur. Une équipe au CIUS sur le terrain. Les intervenants sur place seront ceux spécialisés en santé mentale, d'entrée chez soi, Bron-Missisquoi, ainsi que ceux experts en dépendance de la cellule jeune et famille de Bron-Missisquoi. L'équipe itinérante du CIUS est également impliquée. Une équipe en dépendance et santé mentale, déjà partenaire de la cellule et d'entrée chez soi, se déplace une fois par semaine dans les locaux de la cellule, précise Gaëlle Simon, directrice des programmes de santé mentale et dépendance au CIUS de l'Estrie, centre universitaire de Sherbrooke, présente lors de l'inauguration des futurs locaux lundi après-midi. Citation, « On pourrait envisager d'intensifier encore plus les services autant en dépendance, en santé mentale qu'en santé physique. Fin de citation. Gaëlle Simon, directrice des programmes en santé mentale et dépendance au CIUS de l'Estrie. L'aspect préventif de ces nouvelles ressources est important, ajoute pour sa part Francis Laramé, directeur général de la Fondation de l'hôpital Brome-Missisquoi Perkins. Prévenir les hospitalisations. Citation. En offrant aux personnes vulnérables un hébergement temporaire, un refuge sûr et chaud, ainsi que de la nourriture et des produits de première nécessité, le projet itinérant joue un rôle important dans la prévention des hospitalisations, explique M. Laramé, fin de citation. Ce projet permet par conséquent de mettre en place un vrai filet de sécurité, selon Mme Simon. Citation, notre communauté est plus forte grâce à vous, dit quant à elle Stéphanie Latour, directrice du bureau de circonscription, au nom de Louis Villeneuve, député fédéral de Brome-Missisquoi. Un modèle de collaboration. Citation. Quand on dit que l'itinérance est un problème de société qui n'appartient pas juste à la santé, ni à la municipalité, ni aux organismes communautaires, nous avons ici un modèle de collaboration, souligne Mme Simon, fin de citation. Autre citation. C'est très important de mentionner la solidarité des gens de la communauté dans ce projet-là, insiste Sylvie Beauregard, mairesse de Couronneville. Moi, je trouve ça exceptionnel. Fin de citation. Les autres bailleurs de fonds sont Desjardins via le Fonds du Grand Mouvement, la Fondation de l'hôpital Brome-Missisquoi Perkins, Centraide Richelieu-Yamaska, la MRC Brome-Missisquoi, Pro-Mutuelle Assurance, la Ville de Couronneville, puis la députée provinciale de Brome-Missisquoi et ministre Isabelle Charest. C'était Le filet social contre l'itinérance se resserre à Couronneville, un texte de Jérôme Savary publié le 24 novembre 2025 dans La Voix de l'Est.
Si maudites, les pistes cyclables, un témoignage de Jacques Macousi, paru le 2 février 2026 dans la presse. Il y a à peine quelques semaines, je ne me serais pas imaginé en train d'écrire cette lettre. J'avais pourtant toutes les raisons du monde de remercier Valérie Plante pour les 8 dernières années, que ce soit pour la multiplication des parcs et espaces verts ou pour les aménagements visant à rendre notre ville résiliente au changement climatique, comme les parcs éponges. Ou encore, pour l'interdiction des plastiques à usage unique, ou pour le déploiement à grande échelle du compostage. J'aurais aimé parler de tous ces projets de piétonnisation de nos rues commerciales qui nous avaient permis, durant la pandémie, de respirer et de garder le moral haut, et qui ont persisté plusieurs années plus tard, rendant nos quartiers plus conviviaux, augmentant nos possibilités de marche santé. J'aurais aimé vous dire comment l'apaisement de la circulation dans nos rues, grâce aux saillies de trottoirs fleuris ou encore aux dos d'âne, a donné un brin d'autonomie à mes enfants. Et que dire des quelques rues-écoles qui ont commencé à voir le jour les 2 dernières années? Là, vous me voyez venir, il reste le sujet le plus chaud, celui qui a fait le plus les manchettes ces dernières années, presque à égalité avec la pandémie, même plus que la guerre en Ukraine, celui des pistes cyclables. Aux urgences du général, oui, je vous parlerai des pistes cyclables, mais pas pour les raisons habituelles. À la mi-janvier 2026, par une journée d'hiver comme les autres, j'enfilais mon manteau, lançais mon sac à dos dans le panier de lait de mon vélo, que j'enfourchais du plateau jusqu'à l'Université de Montréal, en passant par la, pas si bien déneigée que ça, piste de la côte Sainte-Catherine. Pour vous faire une histoire courte, une heure plus tard, une ambulance me déposait aux urgences du général, victime d'un infarctus du myocarde. à 48 ans. Docteur, je suis pourtant actif, je marche, je fais tous mes déplacements à vélo, été comme hiver, beau temps, mauvais temps. J'ai finalement fait tous ces efforts pour rien. Monsieur Nakuzi, c'est génétique. Mais n'eût été le vélo, vous ne vous seriez probablement pas rendu jusqu'à l'hôpital. Traduction. Vos gènes vous amènent ici, mais le vélo vous a sauvé la vie. Il y a quelques semaines, Patrick Lagacé publiait dans la presse un premier article sur les efforts qu'on doit faire individuellement en matière de prévention pour rester en santé. Monsieur Lagacé récidivait, quelques jours plus tard, avec un autre excellent article qui rappelait le rôle que doivent jouer nos gouvernements pour nous aider dans nos choix. Quartiers marchables, parcs et, bien sûr, aménagements cyclables. C'est donc durant ces 4 jours à l'hôpital, branché de tous les côtés, que je me suis rappelé que j'avais effectivement pu adopter le vélo comme mode de transport quotidien, été comme hiver, pour la simple raison qu'on avait mis à ma disposition ces maudites pistes cyclables, sûres, connectées, 4 saisons, pour tous les âges et habiletés. Et pour cela, Valérie Plante m'a sauvé la vie. Alors, à tous les lecteurs, restez actifs, mangez sainement, et si vous avez des antécédents familiaux, n'oubliez surtout pas d'aller faire, au moins une fois par année, un test lipidique, cholestérol et compagnie. Et à notre nouvelle mairesse, Soraya Martinez Ferrada, il relève de votre responsabilité de continuer sur la lancée de votre prédécesseur et de créer des espaces pour la mobilité active au lieu d'en retirer, d'augmenter le budget du très populaire Bixi au lieu de le réduire drastiquement. Vous avez à votre disposition le meilleur outil de prévention que vous pouvez offrir à vos citoyens. C'est une question de santé physique et mentale. C'est aussi parfois une question de vie ou de mort. Finalement, un grand merci aux 2 agents de sécurité de HEC pour leur réactivité et leur réconfort, aux ambulanciers et à tout le personnel soignant et aux médecins de l'Hôpital général de Montréal. Vous avez été mon vélo pendant 4 jours. C'était « Pas si maudite, les pistes cyclables », un témoignage de Jacques Nakuzi, paru le 2 février 2026 dans la presse.